Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Aujourd'hui, on va parler de l'Union européenne qui remet Meta à sa place. On parle de Marques Brownlee qui devient un fossoyeur de start-up et de AirChat, la nouvelle app Buzzy de la Silicon Valley. C'est tout de suite dans le rendez-vous tech. Et il faut que j'appuie sur le bouton pour envoyer le générique. Ça marche mieux comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja et aujourd'hui je vous propose l'épisode numéro 562. On est en avril 2024 et c'est un épisode un petit peu allégé puisque je suis seul avec vous. J'ai un rendez-vous médical demain, mardi, d'habitude on enregistre l'épisode le mardi, là on est lundi et c'est des conditions particulières puisque je le fais alors à moitié en live. Comment est-ce qu'on peut décrire ça? Je suis pour la première fois en live sur le Discord de la communauté. J'avais prévu de faire un tout petit épisode en petit comité, pas de pression, tout ça. Et en fait, quand j'ai lancé le live sur Discord, j'utilise la fonction Stage qui est tirée de Clubhouse, tout ça. Et bien, ça a envoyé un at everyone qui a prévenu tous ceux qui sont dans le Discord. Donc, on est finalement un peu plus nombreux. Bah écoutez, c'est pas grave. La pression, c'est parfois bon. Et du coup, je vais être obligé de faire un épisode cool. Mais comme vous l'entendez peut-être, bah je suis tout seul pour cet épisode également. C'est plutôt de là que vient la partie allégée. Comme je vous en avais parlé il y a quelques temps, c'est quelques semaines où je fais les choses un petit peu différemment. Vous avez eu droit à des épisodes spéciaux la semaine dernière. Et là, ça fait des années que j'ai pas fait un épisode tout seul. Je suis quand même plus à l'aise quand moi je suis tout seul. Et je suis sûr que vous, vous êtes plus content aussi. Parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, les épisodes où il y a des gens qui me répondent, ça n'est finalement que des épisodes où moi je dis des trucs intéressants et les autres me gênent. C'est que ça, en fait, quand il y a d'autres personnes, donc là c'est plus simple, on coupe dans le gras et il n'y a que Patrick. Non, je plaisante. Bien sûr, je suis très heureux quand il y a d'autres personnes qui sont avec moi, mais là c'est plus simple, donc on fait comme ça. Et puis c'est sympa aussi de temps en temps d'avoir un épisode où on est juste vous et moi. Vous voyez, là on est vraiment à deux, on est en duo, vous qui m'écoutez, moi qui suis dans vos oreilles, et c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus sympathique. Bon, sauf que il y a quand même quelques dizaines de personnes qui nous regardent en même temps. Hein. Je ne veux pas vous faire paniquer, mais il y a des gens qui nous regardent pendant l'enregistrement. Ce n'est pas grave. On a donc cet épisode allégé qui n'en sera pas moins super intéressant. Et je voudrais remercier les gens qui permettent à cet épisode d'exister. On a des nouveaux patriotes. On a Battant, Bastien, Vial, Collet, Pierre S. et Émilien Petit qui ont rejoint depuis deux semaines le patriote du Rendez-vous Tech. Merci beaucoup à eux et merci aux producteurs de cet épisode, Christophe Perrette et Rémi X. Merci à vous tous. Vous le savez, si vous voulez rejoindre l'émission, rejoindre le Patreon, bien sûr, c'est patreon.com/rdvtech. On me dit dans le chat que l'épisode de la semaine dernière animé par Cédric était sympa aussi. Ben, merci pour lui et évidemment, il a pris grand soin et avec son grand professionnalisme de faire un épisode cool. Je suis sûr que vous l'avez apprécié. Alors, avant de se lancer dans les infos de la semaine, je vais peut-être faire un petit after show après pour vous parler de... En fait, j'ai réparé ma connexion Zapier. Vous ne savez pas ce que c'est peut-être, certains le savent. Mais en fait, je vais en profiter pour vous expliquer pourquoi j'essaye de réduire toujours le nombre d'outils que j'utilise dans la production. Et puis, d'une manière générale, dans l'informatique, j'essaye d'avoir un minimum d'outils. Et là, on a un exemple d'outils informatiques. Hein. Là, on a un bon exemple. Ça me permettra de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé. On verra si on fait ce petit after show ou si je le réserve pour un édito un jour. Parce que oui, un jour, je referai des éditos. Écoutez, on est prêt et on va se lancer dès que je me suis un tout petit peu mouché parce que Évidemment, en plus de ma fille qui est à la maison depuis des mois, mon fils est tombé malade aujourd'hui. Donc moi, il me file sa crève, donc il va falloir que je me nettoie un peu le nez de temps en temps quand je parle. J'espère que vous en excuserez. Et maintenant, vous m'en excuserez, et maintenant je suis prêt à lancer le générique pour le début de l'émission et des sujets qu'on couvre cette semaine, des sujets importants. Alors, premier sujet, Meta a été remis à sa place par l'Union européenne avec une décision de une décision de l'European Data Protection Board. Je remonte un petit peu dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé avec Meta, avec Facebook et les autres propriétés Meta ? Eh bien, en fait, selon le RGPD, Meta doit proposer une version de ses services qui sont accessibles sans tracking, sans publicité super ciblée. Et c'est le cas de toutes les sociétés. Et certaines sociétés font le choix de vous proposer une version avec pub sans tracking. D'autres font le choix de vous proposer une version avec pub avec tracking ou alors d'avoir un abonnement payant pour accéder au contenu sans pub du tout. Donc, vous avez le choix entre pub avec tracking et paye. Et ça, c'est un modèle qui est relativement commun pour se mettre en accord avec le RGPD. Il y a plein de publications qui l'utilisent, notamment dans la presse en France et ailleurs. Donc, par exemple, si on va sur le site du Monde ou du Figaro ou d'autres grands médias, eh ben, certains vont vous dire « vous pouvez lire cet article si vous payez ou alors il faut accepter les pubs ». Et ça, il y avait une question sur la conformité avec le RGPD qui a été mis en exergue parce que Meta a choisi de faire ce choix aussi ou de proposer ce choix à ses utilisateurs il y a quelques semaines, quelques mois de ça, pour se mettre en conformité avec le RGPD. Et certains estiment que ça n'est pas respecter l'esprit du RGPD que de faire ça, puisque le choix est injuste. Ils voudraient que, pour respecter le RGPD, Meta soit obligé de proposer une version de son service avec pub, sans tracking, mais gratuite. Donc, une sorte de troisième voie qui soit disponible, pas seulement avec pub, avec tracking, ou avec abonnement payant et sans pub, mais une voie du milieu qui soit avec pub, sans tracking. Et ça, c'est une grosse question qui est posée à l'Europe. Est-ce que le RGPD veut vraiment dire qu'il faut imposer aux sociétés de proposer une version de leur service selon un business model qui est dicté par l'Union européenne, qui est « vous êtes obligé de proposer un service qui n'a pas de tracking et qui n'utilise pas les données privées des utilisateurs ». La question est difficile parce que c'est vraiment une ingérence importante dans la manière dont les sociétés font proposent leurs services et font le business, en fait. Sauf que certains estiment que oui, le RGPD veut dire qu'il faut proposer ça. Et donc, la question a été posée à l'Union européenne dans son ensemble par des organismes de défense de la vie privée et des données privées plus local, et c'est à cette question que répond le EDPB, le European Data Protection Board, qui a dit, il y a quelques jours de ça, oui, Meta doit proposer une version de son service qui est fonctionnellement similaire à la version gratuite avec tracking, mais qui n'inclut pas de tracking. Et la réponse est monumentalement importante, parce que ça impose, bien sûr, à Meta de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, puisque les services, enfin la pub sans ciblage spécifique rapporte beaucoup moins. On l'imagine bien, la pub qui est très ciblée peut plus intéresser ou mieux cibler la personne à qui elle est proposée, et donc un annonceur va payer beaucoup plus pour cette pub. Une pub qui n'est pas ciblée, bah, c'est une pub qui est proposée à des gens qu'elle n'intéressera pas. Et donc, un annonceur va payer beaucoup moins pour faire cette pub-là, parce que le résultat sur le client sera moins efficace. La pub sera moins efficace, c'est évident. Et donc, Meta et les autres sociétés de ce style ne veulent pas proposer de la pub qui n'est pas ciblée. C'est financièrement pas du tout intéressant pour eux. Et donc, ils ne le feront pas, à moins d'y être peut-être forcés. Et donc, si on met de côté un instant cette question que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est hyper importante, la question de est-ce que l'Union européenne ou un gouvernement en général devrait avoir le droit d'imposer ce genre de choses à une société ? Et c'est une vraie question qui dépasse les clivages entre capitalistes et anticapitalistes. Il y a une vraie question de liberté d'entreprendre là-dedans, qui est légitime à tous les niveaux de l'organisation de la société. La réponse, on peut dire oui, ils ont le droit ou non, ils n'ont pas le droit, mais ne pas penser que cette question est légitime et juste dire « Oh ben non, on s'en fout, de toute façon, Facebook, ils doivent faire ce qu'on leur dit et c'est comme ça », c'est pas une réponse qui est cohérente. C'est une démarche qui est lourde, qui est empreinte d'une grande responsabilité et qui ne doit pas être prise à la légère, cette décision. Mais il n'empêche, le DPB a pris cette décision et il la justifie d'une manière qui est intéressante, qui est que les gens qui font ce choix ne font pas un choix en toute connaissance de cause. C'est-à-dire qu'ils vont cliquer rapidement, ils voient, Facebook dit, vous voulez payer, vous voulez utiliser notre service, vous avez deux choix, payer ou avoir de la pub. Alors évidemment, la plupart des gens, l'immense majorité des gens va dire, bon, bah, je prends le truc avec de la pub gratuit. Mais ils ne vont pas bien comprendre que ça veut dire qu'ils donnent leurs données privées à la société Meta. Et là, on a un argument qui est cohérent, c'est que le consentement se fait sans compréhension globale des implications du consentement. Donc, c'est pour ça que le DPB décide d'imposer ça à Meta. Il faut préciser à ce niveau, à ce point, que la décision de le DPB n'est pas forcément contraignante. C'est un avis qui est rendu, qui va sans doute être suivi rapidement par les autorités, les autres autorités. Et donc, on n'est pas tout à fait dans une décision qui est contraignante, mais les autres devraient suivre cet avis. Et donc, on va très clairement dans cette direction qui est d'imposer ça à Meta. Et donc, si on met de côté, j'ai fait un long détour, mais si on met de côté cette question de est-ce que l'État a le droit moral presque d'imposer cette condition à Meta, cette condition de travail à Meta ou à des sociétés en général, si on met ça de côté, eh bien il y a une autre question qui est extrêmement intéressante. Cette autre question, c'est est-ce que le web, est-ce que Internet peut fonctionner avec un modèle publicitaire, gratuit, qui ne repose pas sur le suivi des données personnelles, sur l'utilisation des données personnelles. On parle en anglais souvent de surveillance capitalism, donc le capitalisme de la surveillance de masse, en gros. Et c'est un moyen un petit peu caricatural d'expliquer que aujourd'hui, le modèle d'affaires du net repose sur l'utilisation massive de données personnelles. Et la question de est-ce que le business model du net pourrait fonctionner avec de la pub, toujours, donc toujours gratuitement, mais sans l'utilisation massive des données personnelles, eh ben, c'est une question qui est extrêmement intéressante aussi. Et c'est une question à laquelle il est impossible de répondre, je crois, si on n'essaye pas en grandeur nature, si on ne fait pas l'essai en grandeur nature. Pourquoi ? Parce que tant qu'il y en aura certains qui font de la pub sans suivi de données personnelles précises et d'autres qui font avec, eh bien évidemment, l'industrie de la pub va choisir les pubs qui vous traquent précisément. Donc, ceux qui n'ont pas de données personnelles ne peuvent pas décoller. Mais si on a cette décision qui se généralise et qui va au-delà d'ailleurs de Meta, eh bien, ça peut imposer en Europe l'idée d'avoir des pubs et des sites qui reposent sur un modèle d'affaires sans utilisation de données personnelles, et peut-être que ces pubs devenant le standard, ça pourrait faire remonter le prix des pubs, par exemple, ou autre idée potentielle, les grandes sociétés en question font énormément d'argent, font des profits à des dizaines de milliards de dollars par mois et par trimestre, et bien peut-être qu'en implémentant un modèle comme celui-là, peut-être qu'il ne réussirait pas à tirer des profits, c'est possible, mais peut-être aussi qu'il réussirait à tirer des profits qui sont moindres. Peut-être qu'au lieu de faire, j'en sais rien, je dis un chiffre comme ça, au lieu de faire 30 milliards dans le trimestre de profits, de bénéfices, eh ben peut-être qu'il ferait 3 milliards. Est-ce que la société dans son ensemble a le droit d'imposer une telle chose à une société de faire 3 milliards plutôt que 30? Bah, je crois que c'est un choix de société qui est légitime de proposer, encore une fois. Cette question de légitimité est importante. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a énormément d'astérisques à ce que je viens de dire. D'une part, il n'est pas dit que le modèle, la décision soit répercutée à l'ensemble des acteurs. Il n'est pas dit même qu'elle soit répercutée à Meta, qui va certainement faire appel de toutes les décisions possibles quand elles seront prises de manière contraignante. Il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas que Meta et les GAFAM qui sont dans ces cadres-là. Comme je le disais, il y a des sites de presse aujourd'hui qui reposent sur ce modèle à deux choix. Et je dis des sites de presse, mais il y en a plein d'autres qui sont plus petits que les géants de la tech. Donc, qui se disent, bah, nous, pour survivre, il faut qu'on ait un modèle où soit vous payez, soit vous acceptez le tracking. Sinon, tout le monde va choisir la version sans pub, avec pub, mais sans tracking, et on fera beaucoup moins d'argent, donc ce n'est pas rentable pour nous. C'est aussi un problème qu'il faut rentrer dans cette discussion. Il y a aussi le fait que peut-être que ce modèle pourrait généraliser la pub, comme je le disais, sans tracking et rendre ça viable, mais peut-être pas. Donc il y a énormément de points d'interrogation là-dedans et on ne sait pas vraiment où ça va aller et on ne sait même pas si ça va être imposé. Mais cette décision de l'EDBP est vraiment, vraiment importante. Enfin, cet avis de l'EDBP est vraiment important parce que je reviens à ce que je disais au tout début. La question, est-ce que le RGPD, et plus largement le DSA, est-ce que le RGPD impose véritablement à ses services de proposer une version de leur service fonctionnellement similaire aux autres qui propose une pub sans tracking, ou en tout cas qui soit gratuite et sans tracking, eh bien, la réponse est donnée. J'ajoute un dernier point que j'oubliais. Si on arrive dans une situation où ce modèle de pub sans tracking est imposé, eh ben peut-être que ça sera un rôle important, enfin un but important pour les sociétés qui proposent ces services, d'expliquer aux utilisateurs pourquoi le tracking peut leur être bénéfique. Et ça, c'est un point que beaucoup peuvent oublier aussi. Je l'évoquais tout à l'heure, mais le fait d'avoir des pubs ciblées peut être un plus pour vous. Alors oui, vous proposez l'utilisation de vos données qui sont anonymisées, etc. Mais ça peut être un plus pour vous. J'imagine qu'en tant qu'auditeur du Rendez-vous Tech, si on vous propose des choses qui ont à voir avec la tech, ça vous intéressera peut-être plus que si on vous propose des pubs qui ont à voir avec la pêche à la ligne. Je dis ça, vous comprenez bien que les pubs, sans savoir du tout ni qui vous êtes ni ce que vous aimez, eh ben, elles vont moins vous intéresser. Et on le voit bien sur Instagram notamment, il y a des pubs qui sont très bien ciblées et qui peuvent vous proposer des produits qui vous intéressent. Donc, ça pourrait être à Instagram ou à Meta ou à d'autres de vous expliquer, OK, vous ne voulez pas payer d'abonnement, très bien, mais vous avez quand même intérêt à accepter l'utilisation de vos données personnelles pour que au moins les pubs... Bah, y aura des pubs de toute façon, quoi qu'il arrive. Et certains ont déjà commencé à le dire. Il y aura des pubs de toute façon. Donc, autant avoir des pubs qui vous intéressent, non? Donc, ça sera peut-être à eux de mieux expliquer ces bénéfices-là de leur côté aussi. Donc voilà pour l'UE qui remet Meta à sa place, selon moi. Je vais boire un petit coup. Et on continue avec le deuxième sujet du jour. C'est est-ce que Marques Brownlee a tué des sociétés? Vous avez peut-être vu passer cette polémique. Marques Brownlee a fait, il y a quelques semaines de ça, peut-être 2 ou 3 mois, la review d'une voiture électrique qu'il a détestée, qu'il estimait extrêmement de super mauvaise qualité, c'était de la marque Fisker. Et quelques semaines, quelques mois après, la marque Fisker est en très très mauvaise posture et elle est même en train de déposer le bilan, si ce n'est pas déjà fait. Il y a une semaine de ça, et Cédric, Marion et Jeff en parlaient dans l'épisode précédent, Marques Brownlee, le même, a fait une review du AI Pin de la marque Humane, qui est donc ce petit truc qu'on se met, qu'on accroche à ses vêtements et qui est en gros une IA dans un petit boîtier et qui répond à vos questions. Et son avis est que bah, le produit est vraiment mauvais. Il a même dit le pire produit que j'ai testé, entre parenthèses, pour le moment, c'est-à-dire qu'il laisse place pour l'idée que le produit s'améliore, ce que beaucoup de gens ont oublié. Mais il n'empêche, il a dit c'est le pire produit que j'ai testé pour le moment. Et il semblerait que ça ait un effet sur le statut de la marque Humane. Donc ça a fait un petit peu une polémique, et certains disent « Ah ben voilà, c'est un YouTuber, Marques Brownlee, qui tue des marques, Fisker et maintenant Humane. Mon Dieu, c'est quand même dur qu'il fasse quelque chose comme ça. » Il a répondu à cette polémique en parlant de plusieurs éléments qu'on aurait pu attendre, qu'on peut imaginer. Et je vais, de mon côté, moi, vous parler d'autres choses juste après que, on va dire, presque les lieux communs de cette discussion. Mais ce qu'il dit, qui est tout à fait logique, c'est, écoutez, deux choses. D'une part, je ne suis pas du tout le seul à dire que ces produits ne sont pas bons. La marque Fisker était sur la pente descendante depuis longtemps. Il y a plein d'autres reviewers qui ont dit du mal de ce produit, enfin dit du mal, qui ont estimé que le produit n'était pas bon. Pareil avec le AI Pin, je ne suis pas le seul à dire ça. Donc, ce n'est pas moi qui suis responsable de ça. L'autre chose qu'il dit, c'est le travail d'un testeur tech, c'est de donner son avis honnête, constructif quand c'est nécessaire, mais en tout cas honnête, sur le produit qu'il teste. Et là, on est un petit peu dans l'évidence. Je comprends qu'il ait besoin de se défendre de la sorte, ou en tout cas d'expliquer de la sorte. Mais évidemment que le travail d'un testeur, c'est de donner son avis. Et sa conclusion, c'est une conclusion qui est aussi évidente, c'est « c'est pas les testeurs qui tuent les sociétés ou les produits. Ben, c'est les produits eux-mêmes. » C'est-à-dire que si le produit n'est pas bon, ils vont se tuer tout seul, comme des grands. Ce qui est, là encore, quelque chose d'assez évident. Et moi, on ne peut pas ne pas être d'accord. Bien sûr qu'un testeur doit donner son avis honnête sur un produit. Si on ne fait pas ça, il n'y a plus rien qui fonctionne dans l'écosystème de la review, du test de produit. Enfin, c'est la base de la base du journalisme et de, on va dire, de cette industrie des guillemets, influenceurs tech. Et certains sont un petit peu plus dans d'autres domaines où on utilise leur audience pour faire de la publicité sur certaines choses. Moi-même, d'ailleurs, je fais de la pub sur certains trucs et c'est clairement délimité. Mais certains font de la pub à une audience et ils ne sont pas eux-mêmes testeurs à la base. On voit beaucoup de gens sur Twitch, par exemple, qui sont juste des joueurs de jeux vidéo et puis ils vont vous parler de tel ou tel produit ou vous dire « telle société m'a payé pour vous montrer leur jeu ». Bon, bah, là, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle de testeurs, à partir du moment où c'est clairement identifié, évidemment. Mais quand on parle de testeurs de produits, eh ben, il faut évidemment que les tests soient honnêtes. C'est la base. Donc là, on ne peut pas lui donner tort et on ne peut pas non plus lui donner tort dans l'idée que les sociétés qui créent ces produits sont responsables de leurs produits. Et si les produits ne fonctionnent pas et ne tiennent pas leurs promesses, il est évident que ça va avoir une influence sur le statut de la société. Bon, OK. Tout ça dit... Une fois tout ça dit clairement, il y a quand même une chose qui est différente là avec Marques Brownlee et avec ces événements-là. C'est qu'on a passé une étape dans l'influence. Je parlais d'influenceurs tout à l'heure parce que des gens comme Marques Brownlee et d'autres influenceurs ne sont pas des grandes sociétés de référence. Quand on parle d'influenceur, on parle généralement d'une personne qui est très suivie sur les réseaux sociaux et qui va influencer son audience directe. Quand on parle d'influenceur, on dit si la personne parle d'un produit ou essaye de faire de la pub pour un produit, eh ben, ou même pas une question de pub, mais si la personne dit tel truc c'est cool, vous devriez l'essayer, ça va avoir un effet sur les clients, enfin, les auditeurs, l'audience de cette personne qui va s'y intéresser. C'est ça l'influence, c'est un lien direct entre le créateur ou la créatrice et son audience. Et là, ce qui est en train de se passer depuis quelque temps, c'est que certains de ces influenceurs ont une légitimité et une place tellement importante dans l'industrie qu'ils couvrent qu'ils sont devenus des médias de référence au même titre que les médias de référence de l'ancienne génération de médias. Donc, Marques Brownlee, et c'est sans doute le premier précurseur ou le premier exemple de ce changement de statut, de ce changement de paradigme des influenceurs, où ils n'ont plus juste une influence sur leur audience, mais ils ont une influence sur l'industrie. Au même titre qu'un autre exemple que je vais prendre et que vous connaîtrez peut-être, sans doute pour les plus anciens d'entre vous, Walt Mossberg. Walt Mossberg était le reviewer tech du Wall Street Journal. Et il a longtemps parlé de tous les produits tech, y compris beaucoup des produits Apple qu'il aimait bien généralement. Mais il n'empêche, quand Walt Mossberg disait un truc, il avait le poids, il a pris sa retraite il y a quelques années, il avait le poids du Wall Street Journal derrière lui, qui est quand même une institution. Et donc, avoir un mauvais article de Mossberg sur son produit, c'était un petit peu la mort du produit. Peut-être pas la mort, mais en tout cas, c'était une bonne entaille sur le produit en question. Et bien là, c'est la première fois qu'on a un influenceur, Marques Brownlee, qui atteint ce statut. Il a, je pense, autant de poids, lui seul, sans un gros média traditionnel derrière, autant de poids qu'un Walt Mossberg ou que le Wall Street Journal. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Et il ne faut pas confondre le terme influenceur, parce qu'on va dire, oh bah ok, donc influenceur, il influence l'industrie, on comprend bien, c'est pas le premier, ça fait longtemps. Non, c'est pas ça. Influenceur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est une personne qui influence son audience. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Là, Marques Brownlee, à force de 10 ans de travail et de sérieux et de construction de sa communauté et de son audience, il est devenu tellement suivi, tellement important que il influence toute l'industrie. Marques Brownlee, il a 20 millions de followers à peu près sur YouTube, sur sa chaîne principale tech. Ce n'est pas le plus gros YouTuber, mais il a ce statut quand même. Et pour moi, ce que je retiens en fait de cet épisode, ce n'est pas la question de « Ah oh ben, est-ce que les journalistes ont le droit d'être honnêtes dans leur review ?» Mais enfin, évidemment, ce n'est même pas une question. Est-ce que c'est méchant avec les sociétés ? Bah, peut-être, mais ce n'est pas leur boulot d'être gentils. Et s'ils sont gentils, ils ne font plus leur boulot et le système ne fonctionne plus. Donc, ce n'est pas ça qui est intéressant dans ces discussions qu'on a écoutées partout. Ce qui est intéressant, c'est que Marques Brownlee atteint le statut de Mossberg et du Wall Street Journal ensemble. Lui, tout seul. C'est une personne. Alors, évidemment, il a une équipe derrière. Hein, mais c'est un journaliste, entre guillemets, qui est seul, qui n'a pas le poids d'une équipe éditoriale, d'une marque éditoriale derrière lui. Il est lui-même sa propre marque, sa propre légitimité. Donc pour moi, c'est ça le plus important dans toute cette histoire. Et c'est ce que je voulais vous transmettre comme information. Troisième sujet, et on va parler avec un petit peu de légèreté peut-être maintenant. On a couvert des sujets sérieux sur les deux premiers. Là, c'est un petit peu plus drôle. Troisième sujet, je vais vous parler de AirChat, qui est la dernière app super buzzy de la Silicon Valley que tous les grands pontes de la Silicon Valley sont en train de tester et d'adorer et de faire buzzer comme c'est pas possible. On est dans le niveau de buzz, un niveau de buzz qu'on n'a pas vu depuis un bon moment. Mais qu'est-ce que c'est que AirChat ? Eh bien, c'est un réseau social qui est un petit peu Twitter avec de l'audio ou Twitter en audio. Bon, je vais vous expliquer. AirChat, ça fonctionne de la manière suivante. On enregistre, c'est un réseau social, on enregistre les statuts, ce qu'on veut dire, les updates, à la voix. Il faut le dire à la voix, on ne peut pas écrire. Et le système retranscrit ensuite ce qu'on a dit en texte, de manière extrêmement fidèle, en français ou en anglais, c'est assez incroyable. Et on voit ensuite, on peut naviguer dans les séries d'updates comme on le ferait sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social, on va dire, basé sur le texte. Donc on a les personnes qui disent des choses et puis les gens qui répondent toujours à la voix et toujours retranscrits au texte. D'ailleurs, c'est assez bizarre, quand on lance l'application, elle commence à lire les premières updates et on l'entend non pas avec une voix robotique à la Siri, mais l'enregistrement de la personne qui a enregistré le texte, enfin qui a enregistré sa voix pour dire ce qu'elle voulait dire. Et on suit ensuite les réponses qui sont aussi en autoplay et ça commence à lire les réponses. Et ça peut lire une, deux réponses et puis on passe au, entre guillemets, tweet suivant et ça continue comme ça la lecture de ce qu'il y a sur le réseau. Et on peut, comme sur n'importe quel réseau de ce type, bien sûr, répondre, liker, répondre, retweeter, entre guillemets, etc., etc. Donc, ça fait un flux de réseau social classique, sauf qu'il y a cet élément de voix. Et vous allez me dire, oui, enfin, la voix, c'est pas la première fois que quelqu'un le fait ou qu'un réseau social le tente. Ça n'a jamais marché, je vois pas pourquoi là, ça marcherait. Et en plus, c'est prise de tête, j'ai pas envie d'écouter les trucs, j'ai pas envie de parler. Alors, moi, je vous répondrai... Oui, tout à fait, vous avez raison. Vous avez complètement raison. Sauf que, là, la manière dont c'est implémenté est quand même assez intéressante. Il y a un truc, et j'aimerais vous expliquer pourquoi ça m'interpelle quelque part, ce réseau social, et la manière dont il est fait. D'abord, on est obligé de communiquer avec la voix. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire par le texte. Et quand on a la voix de quelqu'un, la vraie voix de quelqu'un, qu'on entend, je pense qu'on a du mal à la comprendre mal, en fait. On a du mal à le considérer comme quelque chose de toxique ou de trollesque systématiquement. Parce qu'on entend la vraie voix, il y a beaucoup plus de contexte de communication. D'accord, on n'a pas le visage et le regard, donc on n'a pas tous les indices qu'on a en tant qu'être humain quand on parle, mais on a le ton de la voix, on a le timbre, on a l'intonation, et ça nous donne quelque chose de plus naturel. Et ensuite, nous-mêmes, quand on parle, on est obligé de dire les choses. Et je pense qu'il est beaucoup plus difficile d'être agressif ou méchant ou trollesque ou toxique quand on doit le dire avec notre propre voix. Alors évidemment, je dis plus difficile, je dis pas que c'est impossible. Hein. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent être aussi méchants et toxiques qu'ailleurs par ce biais. Mais c'est, je crois, beaucoup plus difficile. Et puis, il y a quelque chose d'assez magique dans la manière dont on reçoit l'information quand on l'entend de cette manière avec la vraie voix de vraies personnes qui se répondent. C'est presque comme... une sorte de podcast asynchrone avec plusieurs personnes qui peuvent participer sans aucun matériel, hein, il vous suffit d'avoir votre téléphone, mais plusieurs personnes qui peuvent participer de manière complètement spontanée et asynchrone. C'est différent des autres réseaux sociaux qui utilisaient de la voix parce que souvent, je me souviens par exemple, certains d'entre vous vont penser à Clubhouse et vont d'ailleurs commencer à rouler des yeux pour dire « Mon Dieu, Clubhouse, quelle horreur, c'était le truc buzzy qui a disparu au bout de quelques semaines. » Alors je dirais « Oui, évidemment, Clubhouse n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais le système de Clubhouse, le truc intéressant de Clubhouse existe encore. Il existe dans... les spaces de Twitter, par exemple, d'autres applications qui ont intégré cette fonctionnalité, comme d'autres applications ont intégré les stories ou les TikTok. Donc, la fonctionnalité avait de la valeur. Et pareil, là, on est en train d'utiliser un stage sur Discord. Un stage, alors moi, j'ai mis la vidéo en plus, mais c'est une salle de discussion de Clubhouse, à la base. Donc, la fonctionnalité, oui, l'application Buzzy a fait du buzz et puis elle a disparu, mais la fonctionnalité était intéressante. Eh bien, donc ça, c'est un exemple. On pourrait parler de Audioboo pour les plus anciens d'entre vous. Là, c'était, il n'y avait pas d'interaction. Ici, avec AirChat, on a cette interaction qui est intéressante. C'est comme un talkie-walkie social, comme le disaient certains. Donc, il y a quelque chose de magique qui se passe quand on écoute, quand on consulte le truc. On est plus impliqué. C'est pas juste qu'on va scroller ou doom-scroller sur un truc sur Twitter. On doit s'impliquer dans la chose. On peut pas l'ouvrir, faire 30 secondes et puis refermer. C'est pas non plus lancer Netflix et puis regarder une série télé pendant une heure. Mais je pense qu'on le fait pas juste pour 30 secondes. Il faut quand même sortir les écouteurs ou pas être en public ou ce genre de choses et écouter pendant 5 minutes et puis écouter une conversation. Et peut-être même vouloir participer soi-même. Donc, il y a l'opportunité, par exemple, d'avoir des sujets de conversation spécifiques. Je pense à des sortes de sous-reddit. S'il y a un domaine, une catégorie de conversation, un sujet qui est, j'en sais rien moi, l'actualité d'Apple, ou les derniers animés, ou un animé spécifique, je regarde encore des animés spécifiques, et ben vous pouvez aller discuter là-dedans, et la magie du truc, c'est que c'est une conversation comme Clubhouse, encore une fois, qui fonctionnait pas mal, mais asynchrone. Vous pouvez écouter ce que disent les gens et vous insérer, vous, dans cette conversation. Encore une fois, podcast asynchrone à plusieurs sans matos, c'est une bonne description. Et peut-être que c'est parce que moi, je suis particulièrement fasciné par l'audio et c'est mon domaine, mais je pense que cette mécanique, cet arrangement technologique à quelque chose d'intéressant. Le fait de pouvoir écouter les gens. Et vraiment, quand on laisse le truc en autoplay et qu'on laisse les conversations jouer, on a l'impression d'écouter un podcast. Vraiment. Sauf qu'on peut aller répondre en podcast. Il y a quelque chose de particulier là-dedans. Ça s'appelle AirChat et je voulais vous en parler. Non pas parce que je me dis que ça va devenir le prochain réseau super populaire. Dieu sait qu'il y a des concurrents à Twitter et qu'aucun ne réussit à vraiment lui prendre sa place. Mais il propose quelque chose de différent. Beaucoup des concurrents de Twitter essayent de refaire la même chose. Là, il propose quelque chose de différent. Je pense quand même pas qu'il va... À vrai dire, si je suis parfaitement honnête, je suis même pas convaincu qu'il survive très longtemps, AirChat. Hein. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que même si le truc... et juste Buzzy dans la Silicon Valley et que il disparaît au bout de quelques mois, bah ça veut pas dire que c'est pas intéressant d'en parler et d'en tirer justement cet usage qui est différent et qui est intriguant. Un petit mot quand même sur les invitations. C'est très fermé encore aujourd'hui, AirChat. Il faut le numéro de téléphone de la personne. Le nombre d'invitations est limité. Il faut le numéro de téléphone de la personne pour pouvoir y être invité. Donc, il n'y a pas de distribution d'invitations en ce moment. S'ils ouvrent un petit peu plus le truc à un moment, eh ben on refera un forum d'échange sur le Discord, comme on l'avait fait pour Blue Sky à l'époque. Donc, je vous tiendrai au courant sur ce sujet. À vrai dire, il est tout à fait possible que le buzz meure de lui-même dans 3 semaines et que je ne vous reparle jamais d'AirChat. Hein. Tout à fait possible. Il n'empêche... cette utilisation est intrigante et je voulais l'évoquer avec vous puisque c'est vraiment l'app super buzzy de la Silicon Valley en ce moment. Bon. Je voudrais donc passer maintenant... On a fait combien de temps là ? Quand c'est Patrick tout seul qui parle, on est à 38 minutes. Généralement, on est à peu près à 45 minutes quand il y a d'autres intervenants. Vous comprenez bien que le seul truc important de cette émission, c'est Patrick, non ? Non, évidemment, là, j'ai fait tous les côtés, donc j'ai tout dit. Et on a certainement, comment dire, il nous a manqué des interventions intéressantes d'autres personnes. Mais si vous pensez que les émissions sont quand même bien mieux quand Patrick n'est pas tout seul, ce que je vous propose, c'est d'aller sur patreon.com/rdvtech et de vous abonner et de m'envoyer un message en disant « Hey Patrick, t'es gentil, Mais je crois que quand même, quand il y a d'autres invités, c'est quand même un petit peu meilleur. Et je vous écouterai bien sûr 45% de plus, non, 250% de plus, parce que vous êtes un patriote. C'est bien sûr comme ça que ça marche. La voix des patriotes compte beaucoup plus que la voix des simples auditeurs pour ce genre de remarques, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que le soutien des patriotes compte beaucoup plus puisque ça me permet d'acheter des choses à manger et de payer mon loyer et tout ça. Donc, si vous souhaitez me soutenir, c'est sur patreon.com/rdvtech. Je vous remercie très chaleureusement de votre soutien à tous et à toutes. Il y a certaines personnes que vous entendrez peut-être dans la semaine dans un autre podcast qui sont en train de me dire dans le chat « c'est quand même mieux quand il y a d'autres invités ». Bah, écoute, je te laisserai me le répéter dans 3 jours.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
On continue avec le reste de l'actualité. Reste de l'actualité, donc, est-ce que vous avez vu le nouveau robot de Boston Dynamics ? Alors évidemment, Boston Dynamics, il est connu pour Atlas, hein, le robot qui fait un petit peu tout. Sauf que Boston Dynamics, il y a une semaine, ils ont mis à la retraite Atlas. Et on s'est dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, c'est terminé, ils ne veulent plus faire de robots. Évidemment, c'était un moyen de faire un petit peu de buzz, puisque le lendemain, ils ont publié une vidéo du nouvel Atlas qui, lui, ne fonctionne pas avec des pompes hydrauliques. Enfin, je ne sais pas si c'est des pompes, mais des trucs de mouvement hydraulique, mais uniquement des moteurs électriques et mécaniques. Et la vidéo, alors s'ils veulent continuer à nous faire peur chez Boston Dynamics, ils ont bien réussi, puisque la vidéo montre Atlas qui est couché et qui lève les jambes d'une manière complètement... qui les plie, genre, en arrière, qui reviennent juste à côté de son torse. Il se relève de cette manière, et puis il retourne le torse à 180 degrés, la tête à 180 degrés, en marchant en arrière pour continuer et marcher en avant pendant qu'il marche. Genre, il marche en arrière, il se retourne, et tout à coup, il marche en avant. C'est les pires images de Terminator qu'on puisse imaginer. Sauf que le robot semble beaucoup plus mobile, beaucoup plus léger, beaucoup plus humanoïde encore. Et on a l'impression qu'on a vraiment passé une étape dans la gestion, enfin le type de conception, voilà, dans la conception de ces robots. Donc c'est le nouvel Atlas, et je voulais vous en parler parce que là, pour le coup, on n'est plus très loin vraiment de robots de science-fiction, quoi. Dans tout ce que ça a d'effrayant et d'enthousiasmant, sans doute, aussi. Je mettrai peut-être d'ailleurs, tiens, la vidéo dans la newsletter, parce que elle est quand même assez impressionnante. Je vous la mettrai dans la newsletter également. Et entre parenthèses, tiens, je voulais vous dire aussi un grand, grand, grand merci pour les abonnements, pour tous ceux qui ont rejoint le groupe WhatsApp. Vous avez été super nombreux, on est à plus de 800 personnes. Moi, vraiment, je pensais qu'on serait 50, quoi. Et du coup, il va falloir que je pense à mettre du contenu intéressant, de qualité, quoi, dans cette chaîne WhatsApp. Et on remettra le lien vers la chaîne WhatsApp encore une fois. dans les notes de l'émission. Mais si vous voulez rejoindre, bah, on est plus de 800. Donc, bah, je vais continuer à faire mes trucs là-dessus. Une autre petite news, l'Union européenne a imposé à Apple certaines choses avec le DMA et le DSA, et ces choses commencent à arriver dans la réalité, comme par exemple l'installation d'applications tierces, de magasins d'applications, donc d'App Store, et d'applications directement par le web. Ça commence à arriver en bêta. Mais ça pose une question qui est assez intéressante, parce qu'il y a certaines applications qui sont disponibles dans les App Store tiers en Europe et qui sont disponibles dans, les App Store, dans l'App Store normal en dehors de l'Europe. Au-delà du fait que ça prend 12 000 étapes d'installer un App Store ou une application directement par le web dans l'Union européenne, et Apple vous dit « Alors attention, hein, vous êtes sûr, mais vraiment, vraiment, vous êtes sûr, vous nous avez dit que vous étiez sûr ». Mais vous êtes vraiment, vraiment sûr, parce que c'est dangereux, hein, ce que vous êtes en train de faire. OK, ça prend 15 étapes, mais c'est possible. Ben, y a un autre truc qui est intéressant, qui est que certaines applications sont disponibles sur les App Store tiers en Europe et sur l'App Store normal en dehors de l'Europe, l'App Store d'Apple, mais pas sur l'App Store d'Apple en Europe. Et par exemple, on a l'Alt Store, qui est le premier de ces App Store tiers qui est disponible sur iPhone en Europe, pour lequel il faut payer. C'est 1,50€ par an, c'est pas beaucoup, mais c'est 1,50€ par an, plus la TVA, parce que Apple a ce nouveau processus de monétisation qui demande à tout le monde de payer, enfin aux développeurs de payer 1€, ou non, 50 centimes par application et par an, au-delà d'un million d'installations, quelle que soit l'origine de l'application. Et donc, l'App Store tiers est obligé de faire payer aussi. Mais du coup, l'application en question, c'est un émulateur de jeux vidéo hein, dont on parle. L'application en question, elle est disponible sur l'Alt Store, qui est un App Store payant. Ou alors, pas du tout. L'application, c'est Delta, hein, dont je parle, si je ne me trompe pas, c'est bien celle-là. Si on veut l'installer, il faut passer par l'Alt Store, qui est payant. Ou alors, on peut l'installer en dehors de l'Europe, par l'App Store, et c'est gratuit. Et ça, c'est un effet du DMA qui n'était peut-être pas attendu. Alors évidemment, Delta pourrait proposer son application sur l'App Store en Europe. Ça serait tout à fait possible, mais ils ont choisi uniquement de le proposer sur l'Alt Store, sans doute pour différentes raisons de moyens de paiement, etc. Mais donc, on ne peut pas y avoir accès gratuitement parce qu'elle n'est pas sur l'App Store et que l'Alt Store est payant. C'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, je dirais, bah, c'est exactement le but du DMA, c'est de faire jouer la concurrence. Et là, c'est exactement ce qui est en train de passer. Il y a de la concurrence dans les App Store. C'est pas les mêmes propositions, c'est pas les mêmes disponibilités, et les développeurs peuvent choisir ce qu'ils préfèrent. Et c'est exactement le but du DMA, donc ça fonctionne. Et pour les utilisateurs, est-ce une bonne chose ? Moi, je pense que oui, au final. Mais je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose. Bah, on verra. On aura la réponse à cette question. C'est comme tout à l'heure sur la question de l'implémentation du RGPD. Eh bah, il faut faire un essai à taille réelle pour avoir la réponse. Un petit peu d'IA, tiens. Microsoft a présenté un produit intéressant qui permet d'animer et de faire chanter une photo, en fait. À partir d'une photo, il y a une IA générative qui peut animer le visage suffisamment bien pour le faire parler et chanter de manière assez crédible. On est limite au-delà de la vallée de l'étrange. Bon, sur les meilleurs exemples, le reste du temps, on voit bien que c'est un truc animé bizarrement, mais ça fonctionne. Ce n'est pas les premiers à faire ça, mais ça fonctionne. On a aussi le modèle Llama 3 de Meta, qui commence à être implémenté dans les produits de Meta comme Instagram, WhatsApp, Messenger et Facebook. Et Llama 3 qui fait, alors selon la taille du modèle et différents facteurs, selon Facebook, il fait aussi bien, enfin selon Meta, il fait aussi bien que, ou mieux que GPT 3.5, sachant que le meilleur modèle d'OpenAI, c'est GPT 4, mais 3.5, il fonctionne déjà beaucoup, et la plupart d'entre nous utilisons 3.5, puisqu'on ne paye pas, enfin, ceux d'entre nous qui ne payent pas pour OpenAI utilisent 3.5. Mais le truc qui m'a le plus impressionné dans ce nouveau modèle, c'est la génération d'images. Il y a donc dans certains pays accès, on a accès à ce générateur d'images par WhatsApp notamment, et en fait, il génère les images en temps réel. C'est assez incroyable, c'est-à-dire qu'on tape, imagine, dans l'exemple qu'il donne, c'est un match de football, et pendant qu'on est en train de taper, il va générer un match de football, donc des joueurs qui jouent au football, et quand on tape ensuite, en temps réel, hein, je veux dire à vitesse normale, sur Mars, eh ben, il change l'image pour que le match de foot ait lieu sur Mars. Et c'est vraiment étonnant parce que la génération d'images, généralement, alors en fonction des modèles, mais ça prend, on va dire, 20, 30 secondes, une minute. Et là, c'est du temps réel. C'est incroyable. Et c'est ce qui m'a le plus impressionné dans ce modèle, qui, bon, au-delà de ça, est certainement très performant. En plus il est aussi performant que les autres modèles. Et puis, toujours dans ces sujets d'IA, il y a TCL, qui est un fabricant de télévision, qui a publié un trailer pour une série qui passera cet été, qui a été entièrement générée par IA. Et c'est une série dont le trailer est un petit peu le cauchemar des générateurs d'IA, parce que c'est exactement ce qu'on voyait il y a, quoi, 6 mois, même pas 6 mois, 3 mois, avec des images vraiment pas super convaincantes, des animations qui sont comme des gifs animés qui se déforment un petit peu, enfin bref, ça a été fait avec des modèles un petit peu anciens, et c'est pas du tout convaincant. Et je pense que la plupart des gens ont réagi assez normalement, en disant, enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Jamais ça ne remplacera quoi que ce soit. Et la réaction est compréhensible, évidemment. Mais je crois qu'on a tendance à oublier très vite qu'en fait, ce trailer, tout moche qu'il soit, et la série, toute moche qu'elle sera certainement, eh ben, elle a été créée sans acteurs ni actrices. Alors, il y a quand même des acteurs voix qui font les voix. Hein. Ce n'est pas des voix générées par IA, mais même ça... Enfin, si, à vrai dire, ça, c'est possible et je ne m'en suis pas aperçu. Je n'ai pas l'impression, mais c'est possible parce que les voix, elles, sont très bonnes. Il n'y a pas de vrai acteur, il n'y a pas de vraie caméra, il n'y a pas de vraie équipe, il n'y a rien. C'est des images qui ont été faites à partir d'électrons dans une machine. Et on a tendance à oublier ça et à oublier les conséquences plus tard, hein, quand ça sera un petit peu meilleur, comme le fait que un fabricant de télévision qui n'a pas de budget pour c'est des télévisions de qualité correcte, très bon marché, hein, TCL. Et ben il n'a pas le budget pour filmer des trucs, pour faire une série télé, c'est pas Netflix, c'est pas Apple, c'est pas Disney. Et ben ils ont fait une série télé. Alors elle est pourrie, mais l'année prochaine elle sera peut-être moins pourrie et l'année d'après, peut-être que ça sera un truc qui ne sera pas comparable à Shogun ou à For All Mankind. Mais qui sera une série que certains pourront regarder, peut-être. Sans acteurs, alors ça c'est plus ou moins bien, hein, mais sans budget nécessaire pour avoir l'équipe pour faire un film. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas la qualité ridicule et cringe-worthy de ce trailer. Ce n'est pas ça qui est intéressant dans cette histoire. Et beaucoup de gens ont tendance à oublier cet aspect. D'ailleurs, il y a un article intéressant... alors attendez, c'est Citation Needed, l'article, le blog en question, qui est écrit par Molly White. Et elle dit, l'IA, c'est pas inutile, mais est-ce que ça vaut le coup ? Avec couper et coûter, certainement. Et elle développe tout un argumentaire qui est intéressant, qui dit en gros, alors ça fait des trucs cool l'IA, mais on ne peut pas construire un business qui fait des milliards de dollars sur ce genre de fonctionnalités. Ça ne marche juste pas. Il n'y a pas assez d'intérêt à l'utilisation de l'IA. Et son argumentaire est intéressant, mais je crois que j'ai vu ça, j'ai lu cet article, et juste après, j'ai vu des choses comme le fait que un article de recherche explique que GPT-4 avait réussi à faire mieux que 99% des docteurs qui regardent un problème dans les yeux. C'est-à-dire qu'on donne une description du problème et des images à ChatGPT et il repère les problèmes, les maladies, mieux que n'importe quel docteur, sauf les meilleurs des docteurs. Il a le même score que les meilleurs des docteurs. C'est utile, ça, quand même. Et puis, ça vaut beaucoup d'argent et ça, c'est utile à l'humanité, on va dire. Comme outil, bien sûr. Il y a Suno, vous vous souvenez de Suno ? Suno, ils ont, cette société d'IA générative qui vous permet de créer des chansons. Et je vous en ai parlé à de nombreuses reprises. Je ne vais pas vous refaire les chansons encore une fois. Mais par contre, ils ont un outil de découverte qui est hyper intéressant, qui s'appelle Suno Explore. C'est suno.com/explore. Et il y a plein de styles de musique qu'ils ont générés et qu'ils vous permettent d'en choisir ou d'écouter au hasard. Je vais essayer de voir si je peux vous faire écouter quelque chose là. Et je vais appuyer sur le truc au hasard. Là, qu'est-ce que c'est ? Choral Ambient Noise Wall. Ça, c'est de la musique encore qui n'existe pas. C'est en sanskrit, le truc. Je vais faire une autre, tester un autre truc. Boogie Carabiad. Je vais choisir Lo-Fi Afro-Cuban Jazz. Intéressant là-dedans, je vais arrêter. Ce qui est intéressant là-dedans, ah tiens, il y a doo-wop classical, je ne sais pas ce que c'est. Mais... Ce qui est intéressant, Afrobeat, Drill Chill Wave. Afrobeat Garage. Rumba Capé Verdean. Alors, pourquoi je vous fais écouter tout ça ? D'une part, parce que ça, on peut tout à fait en faire une station de radio, peut-être personnalisée ou je ne sais pas quoi. Je veux dire, la qualité est suffisante pour écouter, juste écouter. Alors, peut-être qu'ils ont sélectionné ce qu'il y a de meilleur, mais ça fonctionne. On peut écouter ça. Et ensuite, et surtout si c'est de la musique, et comme je le disais à l'épisode précédent, du lo-fi, ça peut fonctionner encore mieux, parce que c'est juste de la musique, il n'y a pas les paroles, et il est encore meilleur juste pour la musique. Mais aussi, ça peut créer des trucs qui n'existent pas aujourd'hui. On n'est pas tellement tombé là-dessus, mais par exemple, Boom Bap Celtic. In the hollow hills of Emerald Green, where sweetness dances on scene. Alors ça, c'est Celtic, clairement. Un style qui n'est pas, enfin, qu'on connaît pas vraiment, quoi. Peut-être que quelqu'un en a fait, mais... Disco classical. Acoustic Texas Blues, non, ça c'est connu. Attendez, je vais essayer de trouver un dernier truc. Russian grunge. Est-ce qu'il y a du grunge en Russie ? Bon, sans doute, je vais baisser un petit peu le son. Il y a sans doute du grunge en Russie. Mais lo-fi cloud rap. French samba. Tiens, voilà. Alors, je ne dis pas que personne en France a jamais fait de samba. Mais on peut créer des trucs qui n'existent pas et à l'infini. French ska. Bon, je vais arrêter. Korean dubstep. Allez sur sudo.com/explore, il y a des trucs vraiment intéressants. Un dernier truc pour dire l'IA, ça sert à rien. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'elle dit, Molly White, hein, donc j'abuse un petit peu. Mais la DARPA, donc le département de la recherche de l'armée américaine, a annoncé avoir réussi un dogfight entre deux chasseurs deux avions de chasse, dont l'un était contrôlé par une IA. Il y avait un pilote dans l'avion contrôlé par l'IA, mais il n'a à aucun moment eu besoin de prendre les manettes, de prendre les commandes de l'appareil. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce qu'il vaut pas mieux envoyer des IA se battre ? Ou alors, est-ce que ça veut dire que c'est plus facile d'envoyer des avions détruire des choses ? Mais on en est à ce niveau. Alors, il y a une vidéo qui explique comment ils ont fait. En gros, évidemment, ils ont entraîné l'IA sur des données de combat, de dogfight, pendant très longtemps. Et puis, ils ont spécialisé le truc. Et maintenant, visiblement, ça marche. Et c'est un combat où... alors, ils ne disent pas qui a gagné tout ça, mais le combat, le dogfight, s'est passé normalement entre une IA et un pilote normal. Bon. Voilà, les gens qui disent que l'IA, ça sert à rien. On va s'arrêter là pour le journal de l'IA. Je vais juste donner encore quelques news. WorldCoin lance son WorldChain, qui est construite sur la blockchain Ethereum, dont le but est, encore une fois, je vous le rappelle, le but est de déterminer si une personne, enfin si... oui, si quelqu'un est un humain, un quelqu'un humain ou une IA, c'est le but de WorldCoin. Alors, la WorldChain sera disponible cet été, mais il continue dans ce domaine. C'est notamment financé par Sam Altman de OpenAI. Et plus je vois tous ces trucs qui se passent, plus je me dis, mais il a vraiment vu le truc. Évidemment, il travaille dans l'IA, donc il le comprend, mais... l'utilité de la preuve d'humanité, à mon avis, sera assez indéniable très vite. Bon, puisqu'on parle de blockchain, je voulais mentionner le fait que Telegram a un partenariat avec Tether. Si vous ne connaissez pas Tether, c'est une crypto-monnaie indexée sur la valeur du dollar. Enfin, ils gère notamment le USDT. USD, c'est US dollar et Tether. Et ça veut dire qu'un USDT est censé valoir $1 et être hyper stable. Et ce que ça permet, c'est des échanges financiers qui sont stables en crypto-monnaie. Donc avec les avantages de la stabilité d'une vraie monnaie et les avantages de la flexibilité d'une blockchain. Et donc, Telegram, qui permet déjà d'envoyer de l'argent, hein, ce n'est pas les réseaux qui permettent d'envoyer de l'argent, ce n'est pas une nouveauté, mais de permettre d'envoyer une crypto-monnaie indexée, donc stable, un stablecoin indexé sur le dollar, ça peut être assez intéressant puisque c'est décentralisé et tous les avantages de la crypto-monnaie. Donc, un moyen facile d'envoyer de la monnaie stable par message Telegram, pourquoi pas ? Peut-être quelque chose d'intéressant. TikTok. D'ailleurs, la loi qui impose à TikTok d'être revendue aux États-Unis est en train d'avancer. Elle n'a pas encore été votée au Sénat, mais il est très probable qu'elle soit votée au Sénat parce qu'elle a été attachée à une loi omnibus qui fait d'autres choses, dont l'aide à l'Ukraine. Et donc, il est possible qu'elle passe au Sénat. Et donc, cette histoire de revente de TikTok risque de se concrétiser. Ils auront un an pour vendre. Bon, on verra, on en reparlera quand ça sera confirmé, si c'est confirmé. Mais en attendant, TikTok a lancé une application qui s'appelle TikTok Notes, qui est une application pour partager des photos et du texte, un petit peu comme Instagram ou même un petit peu TikTok, ou même un petit peu Twitter, je veux dire. Alors, ce n'est pas du tout le point fort de TikTok, donc à voir si ça fonctionne ou pas. Et puis, ça ajoute encore un Twitter-like à tous les différents concurrents. Mais TikTok Notes, pourquoi pas ? Alors, c'est surtout Instagram hein, que sa concurrence, mais voilà, intéressant à noter. Et puis enfin, je voulais mentionner, puisqu'on utilise Discord, il y a un rapport encore de 404 Media, 404 Media, sur des pirates, des méchants pirates qui font ce qu'on appelle du crawling de Discord, de milliers, de dizaines même de milliers de serveurs Discord pour avoir accès à toutes les données postées là par les utilisateurs ou toutes les informations. C'est-à-dire que, alors, J'imagine que notre serveur à nous, il est trop petit, donc on est tranquille, tout va bien, je ne sais pas. Mais ils ont donc des utilisateurs factices sur plein de serveurs, et surtout les plus gros serveurs, Minecraft, etc. Et ils enregistrent ce qui est posté par tous les utilisateurs, et ils rendent ça ensuite disponible sur leur service. En recherchant le nom d'un utilisateur, on va pouvoir voir ce qu'ils ont dit, de quel sujet ils parlent, etc., etc. C'est un moyen de hacking intéressant et nouveau qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant de cette manière. On va dire que c'est du scraping de masse. Évidemment, Discord y intéresse. On imagine qu'ils vont peut-être perturber le business de... comment il s'appelle déjà ? Je ne me souviens plus. Attendez, je retrouve le nom. SpyPet. C'est ça, c'est SpyPet. Donc, ils vont sans doute disrupter les opérations de SpyPet, mais en attendant, SpyPet a fait quelque chose d'intéressant et d'un petit peu inquiétant. Et voilà pour cet épisode. Je mettrai dans la newsletter quelques articles vraiment intéressants. En plus, il y en a un sur le fonctionnement des bateaux qui réparent les câbles sous-marins. C'est hyper intéressant. Il y a la manière dont eBay vend 1 million de dollars de produits par an sur des boutiques concurrentes comme eBay ou Walmart pour les espionner, pour savoir comment ça marche, ce qui se passe chez eux. Il y a aussi les tics de langage de ChatGPT qui sont intéressants. La manière dont ChatGPT dit certaines choses spécifiquement en fonction des contenus sur lesquels il a été entraîné. Et ça permet, par exemple, de repérer des textes qui ont été écrits par ChatGPT ou non, mais aussi, juste, ça change le langage, quoi. Hyper intéressant. Home Assistant, c'est un système open source de contrôle de maisons connectées qui essaye d'aller plus loin en lançant Open Home Foundation, qui est une fondation open source pour ça. Et dans la maison connectée, il n'y a pas de solution commerciale qui a trouvé le succès. Et même Matter, qui était censé amener une unification pour tout le monde, n'avance pas vraiment très vite. Donc peut-être que dans l'open source, ils réussiront à trouver une solution à tout ça. Bref, tout ça est dans la newsletter. Vous pouvez vous y abonner très facilement en regardant les notes de l'émission ou en allant sur notepatrick.com. Vous avez aussi le groupe WhatsApp qui est dans les notes de l'émission. Il faut que je rénove notepatrick.com. Et puis, tous les liens vers tout ce que je fais. Vous avez aussi le Patreon, évidemment, le plus important, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Vous savez que c'est le moyen c'est la chose qui permet à l'émission d'exister. Donc, si vous appréciez, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à aller regarder. Quand vous rentrez chez vous, vous connaissez la musique, cling, les clés dans le bol. Et là, vous dites, ah merde, j'ai mis les clés dans le bol. Réflexe de Pavlov, il faut que je pense à Patrick et que j'aille sur patreon.com/rdvtech. Vous pouvez aussi le faire tout de suite là, dans les transports, sur votre smartphone. C'est possible également. Quoi que vous choisissiez, je vous remercie d'écouter ou de soutenir et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes.